Très important.
Grand bonjour de la part de mon...
Ah, pas mal maintenant.
Tu commences comme ça. On est parti, là. Hein. Donc, je vais apporter un grand bonjour de la part de maman et papa. Et maman m'a dit, tu dis bonjour à tout le monde. Hein. Tout le monde, oui. Tout le monde, d'accord. Bonjour. Bonjour. Donc maman et papa vont très bien. Maman a 83 ans maintenant et papa il y aura 86 bientôt. Et ils habitent juste à côté de chez nous, on a une maison tous ensemble. C'est, donc, mais tout va bien, ils sont en bonne santé. Oh, ils deviennent vieux comme nous tous. Mais tout va bien. Je vous envoie un grand bonjour à l'église de Lille et beaucoup de souvenirs, on en parle souvent. Mon frère Richard, d'ailleurs aussi, vous envoie un grand bonjour. Je l'ai vu récemment à la Nouvelle-Orléans. On est tous les deux psychologues, on était en conférence ensemble. On a passé des bons moments. Et puis je lui parle en français pour vérifier qu'en fin de compte, il s'en rappelait. Hein. Parce qu'on parle juste en français. Il voulait que je lui dise bonjour, je lui dis que je venais. Donc, un bon bonjour des États-Unis. Là, ça fait vraiment plaisir d'être là. Bon, je voudrais parler quelques minutes. On a récemment... on s'est rappelé quoi, de la Pâque, de la mort de Jésus, mais je voudrais nous ramener au début de son ministère, qu'il a en fin de compte, il a commencé son ministère comme il a terminé, quoi, dans une confrontation. Donc en Matthieu chapitre 4. Je vous dis un grand bonjour aussi de la part de ma femme, mardi, ça s'appelle mardi, et mes enfants et tout ça, mais c'est marrant parce qu'il y avait quelqu'un récemment, il me dit, ah, ta femme, tu lui diras bonjour, elle s'appelle comment? Mercredi, c'est ça. C'est marrant. Enfin, le jour de la semaine. En verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit, « Alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa... Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc, comme je disais, c'est Jésus va finir son ministère quoi, sur la croix. Une confrontation avec le diable, une confrontation avec le mal, mais une confrontation avec la mort. Et il commence précisément son ministère de la même manière. C'est une confrontation entre lui et le diable. Et le pouvoir du diable, c'est la mort. Et c'est cette confrontation qui va vraiment... établir quoi, le centre de son ministère. Un passage, je fais une petite parenthèse et on revient sur ce texte, mais le passage là, très important pour comprendre cette tentation, pour comprendre même le ministère de Jésus, c'est en Hébreux chapitre 2, verset 14. « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, de condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. » Et on voit ça. Là, il est dans la chair, il a vécu, il est devenu Dieu, devenu homme dans la chair. Et il fait face au même problème que nous, on fasse dans notre condition. C'est par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. C'est un passage très très fort, parce qu'il dit en fin de compte que notre problème fondamental, c'est la mort. C'est la mort. Il dira même, l'Évangile nous dit que c'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 15 que le dernier ennemi à anéantir, c'est la mort. Et donc, je voudrais qu'on regarde ce texte-là, le texte en Matthieu, de ce point de vue-là. Que le problème, moi, j'ai toujours pensé que notre problème fondamental, c'est le problème du péché. Et c'est vrai, en fait, le péché. Et d'un côté, on voit que le péché, c'est ce qui mène à la mort. Paul dit ça dans Romains, avec le couple originel, Adam et Ève. C'est leur péché qui entraîne la mort. Mais d'un autre côté, c'est aussi, ça va à l'envers. C'est la mort et cette crainte de la mort, cette terreur de la mort qu'on vit dans cette crainte de la mort, de vie entière, c'est ça qui entraîne nos péchés. Et je ne sais pas si vous avez l'impression d'être esclave de la mort. C'est une drôle d'idée quand même, être esclave. On se sent souvent esclave du péché, mais ce sont esclaves de la mort. Donc je ne veux pas être trop psychologique, mais en fin de compte, derrière tout ce qu'on fait, derrière tous nos comportements, souvent, il y a cette crainte de la mort, cette terreur, cet esclavage de la mort qui est là. Et d'ailleurs, ces tentations de Jésus, c'est toutes les tentations qui vont avoir avec le fait d'être humain. La première tentation, quoi, c'est la tentation du pain. Il a faim, il est dans le désert, il est affaibli. Il le tente, tiens, occupe-toi de ton corps. Voilà. C'est notre première tentation, c'est de faire ce qu'il faut faire pour que notre corps puisse continuer, puisse vivre. Il y a beaucoup de tentations qui viennent. La deuxième tentation, c'est la tentation du miraculeux, quoi, de l'héroïsme. Fais cette grande chose, spectaculaire. Et c'est vrai que c'est une tentation qu'on passe tous, qu'on fait face à tout, qu'on doit tous faire face. Voilà, mon français, ça revient. Et la troisième tentation, c'est cette tentation de pouvoir. Je vais donner tous ces territoires. C'est le pouvoir, mais aussi les possessions, la possession de choses, quoi. Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est les mêmes moyens aujourd'hui par lesquels on cherche l'immortalité. C'est Jésus seul qui a l'immortalité, en fait. Pour ça, il va mourir sur la croix, il va être ressuscité, il va nous garantir quoi, la vie éternelle. Mais nous, on cherche la vie éternelle quand même, parce qu'on vit dans cet esclavage de la mort. Il y a un existentialiste psychologue assez intéressant, il s'appelle Ernest Becker, et lui, il avait dit quelque chose assez interpellant. Il a dit que chaque société est un système d'héroïsme qui promet la victoire sur le mal et sur la mort. Qu'en fait, compte que toutes les sociétés humaines, tout ce qu'on fait, toutes les entreprises, toutes les autorités, tout ce qu'on fait, c'est un système pour surmonter la mort. Vous comprenez? Parce qu'à la fin, en fin de compte, on est né, on sait dès qu'on devient un certain âge, on sait qu'on va mourir. Et on est conscient. Et on cherche à faire de cette vie une vie qui a un sens. On cherche à s'assurer que ce n'est pas pour rien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a la foi. Mais ça se voit dans toute manière, le travail, pourquoi on travaille. Parfois, on se donne à plein au travail, à mettre des heures et des heures et des heures, des années à une carrière. Et on sait très bien qu'on va mourir un jour et qu'on va nous oublier. La carrière, c'est fini, quoi. Et on sait même que là, la carrière à laquelle on s'est donné, moi je travaille dans une université, je suis prof de psycho, ben elle ne sera pas là pour toujours, hein, cette université. Mais on a l'impression que si je me donne là, si je suis important là, et dans ce système, quoi, et ce n'est pas un mauvais système, mais c'est un système où on cherche l'immortalité. Pour être prof, bon, il faut être un bon prof, il faut que les étudiants vous aiment, il faut faire des recherches, il faut publier vos recherches. On a un système, quoi, et tout travail, il y a un système pour avancer, pour s'établir. Bon, c'est pas que le travail, c'est mauvais, mais parfois, on a du mal à se retirer de ça, on est tellement dedans. Il y a d'autres exemples, par exemple, le consumérisme, ceci. Le consumérisme, acheter les choses, dépenser, avoir de plus, les possessions, en fin de compte, c'est une manière, on essaie de s'assurer que je vais m'en sortir. Mais on sait très bien, on ne va pas s'en sortir, on va mourir. Et ces possessions, elles vont rester là. Elles ne vont pas avec nous. Quoi. Même si on est comme les pharaons, on enterre ça avec nous, ça ne part pas avec nous. On le sait très bien, mais on passe des heures et des heures et des années à chercher, quoi, à posséder les choses. Ça peut être la politique. Là, aux États-Unis, c'est intéressant, la politique. surtout déprimant. Mais des convictions, des émotions tellement profondes. C'est presque comme le président dans les élections présidentielles. C'est presque qu'on lui a donné le statut de Messie, quoi. Et qui va nous sauver. Et puis, bon, certains sont certains que c'est Trump qui va nous sauver. C'est ahurissant. Mais puis, il y a d'autres. Parenthèse. Voilà.
De l'eau.
Je la bouche sèche. Et d'autres qui croient que c'est bon, Hillary ou Bernie qui vont nous sauver. Mais c'est vrai, pourquoi on est tellement animé par ça? On cherche en fin de compte l'immortalité. C'est un concept très intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé que ce que j'ai apprécié de notre tradition, de notre Église, c'est qu'on a toujours bien compris le rôle de l'individu et que de notre responsabilité personnelle. Et donc, quand moi, je lisais un passage comme ça, c'était toujours, ben oui, je suis tenté, comme Jésus était tenté, c'est ma tentation. Et que c'était toujours au niveau de l'individu qu'on comprenait les choses. Et c'est juste, en fin de compte, c'est pas faux. Mais comme je vieillis, quoi, et je remarque, et on apprend, on regarde l'histoire et tout ça, on remarque, mais il y a des problèmes qui sont beaucoup plus grands que les problèmes d'individus. Il y a des phénomènes qui se refont au fil des siècles, dans toutes les sociétés, au fil de l'histoire, qui se répètent. Des phénomènes où des gens très bien, des gens très bons, deviennent monstrueux. On parle du nazisme, on parle... Ben ça se passe tout le temps. Quand on est ensemble, on peut parfois faire des choses ahurissantes, vraiment. Le racisme, aux États-Unis, on lynchait, on tuait les Noirs, quoi. Comme c'était des bêtes. Incroyable, incroyable. Et c'était des gens bien chrétiens. C'était des chrétiens. Le sud des États-Unis, c'est la partie du pays la plus chrétienne. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, en Allemagne, dans la Deuxième Guerre mondiale, les nazis qui participaient à la Shoah, mais c'était des pères, c'était des maris, c'était des gens bien. Hein? Ma fille Claire, ma fille aînée, ça me touche toujours quand j'y pense. Elle est très soft-hearted, elle est très sensible, oui, un cœur très doux. Et, elle a pris un cours, elle est prof, institutrice maternelle, et, enfin de formation, pour l'instant elle est à 10 ans avec ses enfants. Mais elle avait pris un cours, et c'était un cours d'histoire, et en fin de compte c'était un cours sur le mal, bon, en fin de compte. Et donc elle devait lire ses livres, et des livres, et des livres, des articles, sur ces situations, comme pendant la guerre mondiale, où des hommes très bien, qui étaient papas, qui lisaient des histoires à leurs petits-enfants, mais pendant le jour, ils tuaient des tas de personnes, monstrueux, quoi. Et elle lisait... Ça me touche. Et au plein milieu, après 2 mois de faire ça, elle était déprimée. Alors, elle a été son professeur, je dis, j'en peux plus. Je la vois. Ok. Ah, voilà. Donc elle dit, j'en peux plus, je ne peux pas prendre ce cours, je dois le laisser tomber parce que là, je deviens trop déprimé. Et le prof était vraiment super. Il dit, ben non, c'est fini, t'as passé. C'est tout ce que je voulais que tu comprennes. Je voulais que tu comprennes à quel point c'est déprimant, quoi. Que des personnes bien peuvent vraiment devenir monstres. Et moi, j'ai toujours pensé, en fin de compte, que c'est... Ah oui, c'est ta décision à toi en tant qu'individu. T'as décidé. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ça nous donne trop de pouvoir. Que moi seul, je peux décider. Et c'est vrai, à la fin du jour, en fin de compte, c'est vrai, on doit décider, il n'y a que ça. Mais tu te rends compte, il y a des forces. Et c'est ça que là, Jésus, c'est là, c'est le début de sa bataille. Lui, il se rend bien compte que ce n'est pas une bataille humaine. Ce n'est pas un conflit humain. Et en Éphésiens, on peut lire ça très vite, en Éphésiens chapitre 6, quoi, on voit bien que Paul nous rappelle de ça, il dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc ça, c'est des petits passages qu'on ne parle pas souvent de ces passages. Mais c'est quoi ces trucs? Ces autorités, ces puissances, ces souverains du monde de ces ténèbres, ces esprits du mal dans les cieux. On ne parle pas beaucoup de ce monde invisible. Et on pense que de nous en tant qu'individus. Mais Paul nous dit, et Jésus, il se rendait compte, il y a une force diabolique qui est beaucoup plus grande que chacun de vous. Et le pouvoir de cette force, de ces forces diaboliques, c'est la mort. Parce que tous les grands crimes que les humains ont commis, toutes les atrocités qu'on a commises, c'est toujours pour se protéger, c'est toujours par la peur de la mort. On a peur de disparaître. On a peur. Donc on s'attache à quelque chose qui est plus grand que nous. On s'attache à un empire, quoi, Nebuchadnezzar. On s'attache à une armée puissante. On s'attache à quelque chose de plus grand que nous et on devient éventuellement esclave. Parce que ces pouvoirs, toutes ces choses, que ce soit un pays, que ce soit une entreprise, pas des choses mauvaises, hein, ce n'est pas des choses mauvaises, mais parce qu'on est dans un monde qui a chuté, la chute d'Adam et Ève, dans ce monde, ces autorités, ces puissances, c'est une force spirituelle qui existe. C'est une force spirituelle qui existe. C'est pour ça qu'on croit qu'il y a un diable en personne ou pas, il y a le diabolique dans le monde. Et c'est une puissance qui existe, mais une puissance qui a chuté. Donc, elle n'est plus au service de Dieu maintenant. Elle est au service de la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais pensez-y. Il n'y a aucune entreprise qui prévoit sa mort. On prévoit aucune entreprise. Il n'y a aucun pays qui prévoit sa mort. La France ne dit pas, bon, je crois que d'ici 2015, c'est fini, enfin 2050, c'est fini la France, on va fermer les portes et on va vendre ça aux Belges. On ne pense jamais ça, quoi. Il faut que ça continue à jamais, à jamais, à jamais. C'est quoi ça? C'est l'esclavage de la mort. On a tellement peur de mourir qu'il faut rester. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger cette nation, ou cette entreprise, ou ce boulot? Il faut devenir esclave. Il faut y mettre son tout. Tous les trucs qui nous entourent, le commerce, le pays, la politique, le travail, ça demande notre tout, ça exige notre tout. Je veux tout. Et puis nous, on est là, j'ai plus le temps d'aller à l'église, parce que, tu vois, tout nous donne tout. Ça, c'est l'esclavage de la mort. Ils ont tous peur de mourir, c'est le pouvoir du diable. Ils ont peur de la mort. Et nous, on devient des petits cogs in the wheel. Ouais, comme des marionnettes dans l'engrenage, quoi, des petites pièces. Et on est remplaçable, d'ailleurs. C'est ça qui est l'ironie, quoi. On s'attache à un travail, on s'attache à une armée pour s'assurer l'immortalité. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. On devient indispensable. Les soldats, il y en a qui meurent, on en met un autre. On est tous en uniforme, hein, parce qu'on ne voit pas des personnalités, on est tous le même, on se remplace. Soldat 1, soldat 2, soldat 3. C'est le système de l'armée, quoi. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? L'église de l'Ouest, l'église catholique, l'église protestante, nos ancêtres à nous, quoi, sont toujours centrés sur le pouvoir du péché. Et donc c'était l'idée que c'est le péché qui entraîne la mort, et donc le sacrifice. Et c'est juste. Mais l'Église orthodoxe, elle, s'est toujours centrée sur la mort, le pouvoir de la mort. Parce que je comprends que c'est la mort notre ennemi principal, et que c'est cette crainte de la mort qui entraîne nos péchés. En fin de compte, la plupart de nos péchés, ce n'est pas des péchés de plaisir, quoi. C'est des péchés de faiblesse. Et on est faible parce qu'on est esclave de la mort. Et c'est ça que Jésus, il vient nous libérer de ça. Et on va voir quelques exemples dans sa vie où il fait ça, où il nous montre ça. J'en suis là. Oui, donc en fin de compte, quoi, en gros, l'idée c'est que ce soit les possessions desquelles on devient esclave, en fin de compte, que ce soit un héroïsme par lequel on essaie de trouver une signification, une importance, c'est les choses qu'on met entre nous et la mort pour se protéger de la mort, de cette crainte d'être anéanti. La chose, pour moi, qui m'a assez bouleversé, je crois, au cours de ma vie, c'est quand je me suis rendu compte qu'on peut faire la même chose dans les choses spirituelles. Comme quand des gens dans une armée, des gens dans une entreprise, des gens dans une politique sont capables de tellement s'identifier à cette autorité, cette puissance, cette force spirituelle, cette identité spirituelle, et sont capables, à cause de ça, de faire des choses assez
diaboliques,
oui, tout à fait. On peut faire la même chose dans le domaine spirituel. Pensez-y un peu, les exemples de la guerre, c'est extrême, mais au niveau du commerce, par exemple, au niveau des possessions, en fin de compte, pourquoi il y a toujours ce problème de riches et de pauvres? Ça ne va pas disparaître, hein. Et ça ne disparaîtra pas, parce qu'on a besoin, par nos possessions, de s'assurer qu'on va survivre. Et on fait toujours ça vis-à-vis des autres. Moi, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme les pauvres. Nous, on est Français, on n'est pas comme eux, les Allemands. Nous, on est Américains, on n'est pas comme eux, les Iraniens. Il y a toujours, on se met toujours vis-à-vis des autres. Et on s'attache. Il y a des recherches qui ont été faites qui sont très intéressantes. Et ici, c'est où la psychologie rejoint la Bible. Les vérités sont là depuis longtemps et on les retrouve. En psycho, il y a un domaine de recherche qui s'appelle « terror management ». La gérance de la terreur. Et c'est à la base de cette. C'est existentiel, à la base, c'est la peur de la mort. Et donc, ils font des expériences qui sont vraiment intéressantes. Donc, par exemple, si vous amenez des gens pour l'expérience, c'est ça, une expérience, la recherche psychologique, et vous les mettez dans deux groupes, et puis il y a un groupe, on va vous dire rappelez-vous une belle histoire de quand vous étiez adolescent, écrivez un petit résumé là-dessus. Et puis l'autre groupe, vous leur dites, tiens, vous, j'aimerais bien que vous imaginez votre mort, que vous allez mourir un jour. Comment est-ce que ce sera? Et quels sentiments ça vous fait y penser? Ok, voilà. Ça, c'est le départ. Et puis après, chaque groupe, on leur demande, on leur montre peut-être des petites histoires. Mais dans l'histoire, on est sûr, et on leur demande une réaction, quoi. Que pensez-vous des caractères, ceci, cela? Et ce qu'on met... Si vous êtes tous chrétiens, on met des juifs, on met des musulmans dans l'histoire. Vous aussi. Et ce qui se passe chaque fois, c'est ceux qu'on leur a dit de se rappeler de leur mort, et eux ne voient pas le rapport, ils n'ont aucune idée pourquoi on fait ça. Ils deviennent beaucoup plus négatifs envers ceux qui ne sont pas comme eux. Chaque fois. Ils sont plus négatifs, ils les jugent, ils ont plus de préjugés. C'est bizarre. Si tu me rappelles que je vais mourir, tout d'un coup, je me protège, je m'identifie à mon groupe, à moi, et contre eux. J'ai peur d'eux. Donc, je les méprise. C'est vraiment... Un autre, pour les chrétiens, qui est vraiment intéressant, ils avaient fait une fois une recherche où ils ont fait le même genre d'exercice. Parfois, ils t'écrivent une histoire. Parfois, tu as un puzzle, un genre de puzzle où tu as des mots de l'alphabet, des lettres de l'alphabet, et il faut chercher quelques mots à l'intérieur. Vous connaissez? Et donc, pour ce groupe-là, donc les mots, c'est les mots neutres, une table, un chien. Mais pour ce groupe-là, c'est la mort. Le cimetière. Mais vous n'êtes pas au courant, vous cherchez des mots, vous ne faites pas vraiment attention, parce que tous les mots sont la mort, mais la plupart. Et vous, pas de mots sur la mort. Et puis après, il leur montre, il leur raconte, il y en a deux, j'en pense à deux. Dans une, il leur montre des photos de jeunes femmes. Puis il y a des jeunes femmes qui sont habillées très, d'une manière très
provocante.
Vous savez ce qui se passe? C'est tous ceux, c'est surtout sur les hommes, pas chez les femmes, mais ceux à qui on leur a fait penser à leur mort, ils deviennent très critiques d'elles. Une attitude très négative. Et en fait, c'est parce que la théorie, c'est que tu m'as rappelé que mon corps va mourir, la convoitise, ça me rappelle de mon corps, et ça me rappelle de ma mort, ça me met mal à l'aise, donc je rejette, je deviens très négatif. Et une autre expérience similaire, si vous avez une prostituée qui est arrêtée, que pensez-vous devrait être sa punition? Ce groupe-là, bon, c'est pas une amende. Allez, en prison pour la vie! Mais le groupe à qui on a dit penser à votre mort, ils sont hyper stricts. C'est vraiment intéressant. Alors là, on revient maintenant aux histoires de Jésus. On se dit, tiens, c'est intéressant. Lui, il n'avait pas cette même réaction extrême que les pharisiens. Parce que lui, il fait face à la mort. Il savait, je vais détruire la mort. C'est le dernier ennemi, anéantir. Lui, il savait. Donc ces stratagèmes de Satan, dès le départ, Satan essaie de le rendre esclave à la mort. Et Jésus, maintenant que tu es humain, maintenant que tu as un corps humain, tu as faim, non? Tu vas mourir. Il faudrait faire un miracle égoïste pour toi, pour ton corps. Et Jésus, maintenant que tu es humain, tu vas mourir. Il faudrait pas faire quelque chose de grand pour que tout le monde dans le monde voit, waouh, le Messie, les anges. Fais quelque chose de spectaculaire. Et Jésus, maintenant, tu vas mourir. Tu le sens, hein? Et si je te faisais le roi du monde, le roi de tout, tout appartenait. Allez, viens. Et Jésus résiste parce qu'il sait. Si je commence par là, c'est un engrenage infernal, quoi. Je deviens esclave. Esclave de la mort. Et oui, après, ça suit. Le péché, toutes sortes de péchés. La violence. Les uns contre les autres. Les préjugés, les uns contre les autres, l'égoïsme, tout ça vient de là. C'est moi, je cherche à me protéger. Et Jésus, au contraire, à quelle heure là? Enfin, bref. Si on regarde une petite image, quelques chapitres. D'ailleurs, chapitre 8, juste après ça, il fait son sermon sur la montagne, hein, dans Matthieu. Et c'est intéressant, quoi. Enfin, juste avant ça, il avait fait son sermon sur la montagne. Non, c'est juste après, pardon, je me perds. Chapitre 4, 4, 5, 6, 7. Le sermon sur la montagne, il leur rappelle ce passage fameux. Si quelqu'un te frappe, l'autre jour. Si quelqu'un te demande ton manteau, enfin ta tunique, donne-lui son long manteau. Si quelqu'un te force à aller un kilomètre, allez-y un deuxième. Mais c'est les tentations de Jésus. Si quelqu'un va te prendre tes possessions, tes choses, si quelqu'un va te menacer ta vie, voilà cette peur de la mort, cette terreur, cet esclavage de la mort qui est ranimé. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On se défend, la contre-attaque. Non, non, c'est à moi ça. Non, 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 je ne te le donne pas. Et lui dit non, 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 non. Il ne faut pas suivre ce chemin-là. Ce chemin-là, ça ne va pas bien s'aboutir. Au contraire, abandonner, mais c'est lâcher les choses. Les possessions, c'est pas ça votre sécurité. Même la sécurité de votre corps, c'est pas ça la sécurité. Et Jésus va le montrer lui-même dans sa vie. Donc sa vie entière, en fin de compte, on voit à la fin, ce qu'on a célébré à Pâques, c'est sa mort et sa résurrection. Mais il a vécu toute sa vie, pas dans l'esclavage de la mort, lui. Toute sa vie, il n'avait pas peur de la mort. Il ne s'est pas laissé tomber là-dedans. Chapitre 8 de Matthieu, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu dans la montagne, une grande foule le suivit, alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Un passage vraiment incroyable, incroyable. Parce que dans notre, de nos schémas, dans notre psychologie, et c'est pour ça que ça devient une tentation, mais en tant que chrétien, on est orienté, on a une pulsion vers la pureté, de ne pas être contaminé. Parce que dans, pour nous, une chose sale nous contamine. Donc, par exemple, une expérience qui est très intéressante, si on prend un cafard. Je prends le cafard, je le mets dans un truc d'eau, et puis je dis, bon, est-ce que tu veux boire? Il ne faut pas rigoler, c'est évident. Bon, ok, d'accord. Mais je vais prendre l'eau, je vais la mettre, un filtre, je vais la refiltrer. Allez, maintenant tu vas la boire. Non, tu vas la boire. Elle a été polluée, elle est pour toujours. C'est fini, on ne va jamais manger ça. Ouais. Si j'ai un beau gâteau fraise, super bon, meilleure pâtisserie française, puis je prends un petit crottin, et je touche tout comme ça. Le gâteau au crottin. Tu le veux? Non, tu le veux plus. C'est pollué, c'est fini. Et le crottin, bah, le crottin, quand même, il a touché le gâteau. Il est mieux maintenant, non? Bon, pas du tout. Et Jésus, tout à l'envers. Il touche le lépreux, et c'est pas lui qui devient lépreux. C'est le lépreux qui est purifié. C'est une contamination inverse. Incroyable. C'est pour ça que Jésus, quand une femme, que tout le monde sait que c'est une femme pécheresse, lui lave les pieds avec ses larmes. Il dit, ouais, tu la laisses à toucher. Mais si eux, ils sont dans ce système de, ouais, il faut être pur, il faut vivre pour toujours. C'est comme ça qu'on sait que nous, on est les vrais de vrais. C'est comme ça que nous, on va avoir la vie éternelle. C'est se protéger de la saleté, du péché, des pécheurs. Ça, c'est les pharisiens. Ils sont dans ce système. Ils sont dans cet esclavage de la mort. Et Jésus, ben non. C'est moi qui vais la purifier. C'est pas elle qui va me salir. C'est mon amour. Et c'est pour ça que Jésus, il a tranché cette chose. Bon, d'un côté, la Bible nous dit d'être saint. Soit vous serez saint. Car je suis saint, Dieu nous a dit. Hein? Donc la sainteté, c'est important. Mais il y a une tension entre cette pulsion d'être saint, d'être pur, et d'un autre côté, cette miséricorde, cet amour sans limite, ce refus de l'esclavage de la mort. Et c'est pour ça que dans les églises, je crois, parfois on a du mal à trouver l'unité. Parfois, on a du mal à se débarrasser de l'esprit de jugement. Parce que même dans l'Église, on peut retomber dans cet esclavage de la mort. Si je vous disais, bon, moi je crois que les Églises du Christ, hein, d'ici 2050, c'est fini, ça vous fait quoi? Ça fait mal, hein? Ça fait peur? Ah non! Mais l'Église du Christ, elle ne va jamais disparaître. Mais notre assemblée à nous, notre tradition à nous, on a peur de perdre ça. Bon, il y a un côté juste. C'est, on aime les Écritures, on s'est dédié, on sait nos vies à les suivre. Donc, ce n'est pas du n'importe quoi. Mais qu'importe, en fin de compte. Mais on peut s'attacher. Je suis baptiste, je suis l'Église du Christ. Je suis catholique, on s'attache, et tout d'un coup, Satan, c'est échec et mat, quoi. C'est pas mat, parce que, bon, il y a toujours Jésus, bien sûr. Mais c'est un échec. Il s'est infiltré dans l'Église. Il a dit, maintenant, l'Église, elle réagit exactement comme la reine. L'Église réagit exactement comme le commerce. Vous êtes tous esclaves, vous avez peur de la mort, et donc vous vous séparez des autres. Et vous devenez cet esprit de jugement. Oh, les pécheurs. On a peur de les toucher, quoi, parce que ça nous rappelle de notre mort. Et lui, c'est pour ça qu'il était tellement ouvert. Il n'avait plus peur de la mort. Il n'avait pas peur de la mort. Donc, je peux toucher un lépreux, je n'ai pas peur de vous. Je peux venir une femme pécheresse, une femme adultère. C'est pas elle qui va me contaminer. Donc, nous ne sommes pas Jésus, on a un peu besoin peut-être de plus d'une crainte saine, mais ensemble, en tant qu'Église, il faut qu'on sache décoder ce C'est ça, déconner. Ce système infernal des autorités, des forces souveraines spirituelles. Et moi, j'ai souvent trouvé que j'avais j'ai une discussion que c'était tout l'individu, quoi. Et en fin de compte, il y a une fierté, là, de se dire que je suis tellement capable, moi-même, de décider. Et on devrait avoir un peu plus de sobriété envers ces forces spirituelles qui peuvent infiltrer même l'Église. J'avais une discussion avec un ami, il était aumônier pour l'armée américaine, et on parlait de l'armée, on parlait de la guerre. Et je lui avais dit, tu sais, la guerre, en fin de compte, ça déhumanise toujours les hommes. Il y a des guerres justes, il y a des guerres pas justes, mais la guerre déhumanise toujours. Parce qu'il faut que moi, je sois le bon, toi, tu sois le mauvais. Et pour te tuer, il faut qu'à un moment, tu deviens moins humain que moi. Et lui, il n'était pas du tout d'accord. Il m'a dit, oui, mais non, mais si tous les gars dans l'armée, ils étaient chrétiens, bah, tout se passerait bien. Je dis, mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller tuer des gens et pas être transformé, pas être changé. Parce que, voilà, l'armée va exiger de toi trop. Et tout d'un coup, la crainte, la peur de la mort, cet esclavage de la mort te ranime. Donc, je ne dis pas que c'est impossible à un chrétien d'être dans l'armée. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu des guerres justes. Mais il faut une sobriété hyper profonde. C'est-à-dire, voilà, oh là, alors là, c'est comme danser avec de la dynamite. Hein. C'est pas évident. C'est quoi le truc?
La nitroglycérine.
La nitroglycérine. Ouais, on va danser avec la nitro. Et moi, j'ai l'impression que parfois, quand ça vient à cet esprit de jugement, on n'a pas l'impression que quand on essaye d'annoncer l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle, et parler du péché, il faut en parler, c'est sûr. Et même parfois, il faut parler les uns aux autres avec le péché. Mais il faut qu'on soit conscient que c'est presque comme si on est en train de porter de la nitroglycérine. Vraiment, le potentiel de me faire exploser moi-même, spirituellement, et de nous faire exploser. Qu'on devient plus le corps de Jésus, en fin de compte. On n'a plus son esprit. Et c'est lui, il a tranché là-dessus. D'un côté, Jésus était saint, il était parfait, il n'a jamais péché. Mais d'un autre côté, c'était la miséricorde. L'acceptation totale des pécheurs. Et quand lui, il a dit ça, il a dit, j'ai désiré la miséricorde, pas le sacrifice. Mais le système sacrificateur, c'est l'Ancien Testament, c'est tout le système pour se séparer du péché, quoi. Et Jésus a capté, quoi. Il y a un danger là-dedans. Oui, c'est vrai, il faut être la sainteté, il faut savoir qui est Dieu, et là, il faut se traiter les uns les autres d'une manière conforme à la vision de Dieu pour l'humanité, pour la famille humaine, pour le royaume de Dieu. Donc, il faut se traiter d'une manière correcte. Mais faites gaffe, parce que quand vous rentrez dans ce système de sacrifice, tout d'un coup, on est dans cet esclavage de la mort. Parce que moi, je veux me garder pur, me séparer de toi pour ne pas être contaminé, parce que j'ai peur. Je vais juger la prostituée d'une manière très sévère, parce que moi, je me sépare. Parce que moi, je veux vivre pour toujours. Je vais rester dans mon église et être fermé aux autres. Bon, c'est pas qu'il faut, puis il faut pas avoir des débats importants sur la doctrine et tout ça, mais cette idée de s'en renfermer et d'avoir peur des autres. Tu vois, c'est cet esclavage de la mort. J'ai peur de disparaître. Mais comment je sais si moi je vais aller au ciel pour toujours? Tu vois, c'est une peur qui est à la base de ça. Donc, il a dit, c'est pas que il faut aller à un extrême ou l'autre. Et Jésus vient et il nous montre, par sa manière de résister au Satan, par sa manière de vivre avec les gens, qu'en fin de compte, on ne doit pas être esclave de la mort. Donc, de tous les jours, la première question, c'est peut-être de prendre conscience que c'est la Bible elle-même qui dit que nous sommes tous esclaves de la mort. Que le grand pouvoir de Satan, c'est la mort. Et bon, je ne vais pas parler trop longtemps, là, je vais arrêter, mais pensez un peu là-dessus. La mort, il y a beaucoup de morts. Dès qu'on est au collège, l'école primaire, si quelqu'un dit « je ne suis plus ton ami », Soit tu ne peux pas jouer avec nous, c'est quoi ça? C'est une mort, c'est une mort sociale. Ça nous tue, ça nous anéantit. De dire, je ne compte plus. Quand une personne, j'ai une de mes patientes qui est venue récemment, et elle m'a raconté l'histoire de son fils qui a été licencié, but en blanc, s'y attendait pas du tout, licencié, a tout perdu ses possessions, désespoir, il a tué sa fille, sa femme et lui-même. Il lui reste derrière. C'est des morts, enfin là c'est une mort véritable, mais la première mort qu'il a vécue, c'est rejet de cette compagnie où il s'était tellement, cette société, cette entreprise, il s'était tellement donné, elle a rejeté, il est mort. On vit tous dans la peur de la mort. Donc c'est parfois des petites morts, le rejet de l'un de l'autre, l'exclusion. Et c'est pour ça que quand nous, en tant que l'assemblée du Christ vivant, quand on a une présence dans le monde, il faut qu'on soit premièrement très très humble. De savoir que nous aussi, on est capable d'être entraînés, et on l'est déjà entraîné dans cet engrenage infernal, cet esclavage de la mort. Donc il faut une humilité. Il faut chercher à examiner nos propres motivations. Parce que parfois, nos motivations pour la pureté, pour l'annonce d'une doctrine correcte est bonne, mais parfois, et souvent, elle est un peu polluée aussi. Il faut aussi qu'on s'examine, mais aussi que dans nos vies, on suit le Christ. On n'ait pas peur de toucher les gens. De toucher, qu'on n'ait pas tellement peur d'être pollué par eux qu'on oublie qu'il y a une contamination en revers que Jésus nous a donné. Une capacité de... Oui, le crottin, ça peut devenir bon si ça touche le gâteau. C'est pas toujours le gâteau qui devient pourri. Bon, vous comprenez. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est vrai, hein. Bon, c'est un exemple grotesque. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Waouh ! Si le crottin touche le gâteau, c'est le crottin qui devient bon. On peut le manger, la nourriture, c'est sucré. Super ! C'est l'évangile de Jésus. Il nous dit, quand vous, pécheurs, faibles, esclaves de la mort, quand vous venez et vous touchez, et voilà, c'est vous qui êtes amélioré. C'est pas moi qui ai diminué. Donc c'est avec cette confiance qu'on peut s'élancer dans le monde avec miséricorde, avec ferveur. C'est aussi pour ça qu'on prie. On prie tous les jours pour se rappeler, Dieu, c'est pas mon travail, c'est pas le commerce, c'est certainement pas Donald Trump qui ont le pouvoir. C'est toi. Rappelle-moi de ça. C'est en toi la vie éternelle. C'est même pas dans mon identité de membre de l'Église du Christ de Lille ou d'Avilaine. Oui, c'est important, mais c'est même pas... C'est toi. Il n'y a que toi qui as le pouvoir. C'est pour ça qu'on prie. Pourquoi on est baptisé? On est baptisé pour prononcer une déchirure. Nous, on ne croit pas à ce système. On renonce à ce système. On s'identifie au seul homme qui a vaincu la mort. C'est en lui qu'on met notre confiance. Il y a un théologien américain qui dit que pendant la période de la guerre du Vietnam, si tu étais contre la guerre, tu étais jeune, 18 ans, et puis tu avais ton conscription, ça s'appelle comment carte, tu t'envoies une carte, ils disent, allez, tu peux te pointer à l'armée. Draft card. Donc tu reçois ce petit bout de papier que tout le monde avait vraiment peur de recevoir. Ils disent, allez, demain, vous pointez, vous allez au Vietnam. Alors il y avait des gens dans un acte de rébellion, ils prenaient ça et brûlaient. Ils brûlaient, ils disaient, je ne crois pas à cette guerre, je ne veux pas mourir pour ce pays, je ne veux pas tuer pour ce pays. Un acte de rébellion. Ce théologien, il dit, c'est ça le baptême. Le baptême, c'est quand on prend ce papier du monde, des forces souveraines, ces forces spirituelles. Parce que le baptême, ce n'est pas contre un autre homme, une autre femme, un autre religieux, un autre non-religieux. Notre bataille, c'est contre ces forces spirituelles qui nous rendent esclaves, qui nous jouent comme des marionnettes. Mon baptême, je brûle cette carte. Je ne vous appartiens pas. Vous ne mourrez pas. Bon, si on est théorique, mais on n'est pas héroïque. Si on est théorique, si on était capable de se jeter du temple et avoir les anges nous attraper, on pourrait le faire seul. Mais c'est une attaque. Tous les jours. Tous les jours. tous les jours, la publicité, le travail, tous les jours, ces principautés disent, viens, viens, je vais te donner la vie, viens, viens. C'est ça l'idolâtrie, c'est de chercher la vie éternelle autre part. On ne peut pas résister tout seul, on est trop faible, on est les pères qui le soir, on lit nos histoires aux enfants et le lendemain, on va mettre des juifs au four. C'est nous, on est tous comme ça. On est tous esclaves de la mort. Mais ensemble, c'est pour ça que dans l'Église, dans le passé de l'Église, on voit de temps en temps des petites figures héroïques, mais c'est souvent pas des héros. En eux-mêmes, la mère Thérèse, je ne sais pas, les chrétiens qui abritaient les juifs pendant la guerre. On voit des actes héroïques ici-là, mais eux, ils ne sont pas héroïques, c'est parce qu'ils font partie d'une communauté qui les soutient, qui les inspire, qui les encourage. Donc c'est pour ça qu'ils vont rester liés les uns aux autres. On a besoin les uns des autres pour s'inspirer, pour s'encourager, pour se remonter. Parfois, on rentre et... On est comme le crottin, quoi. On est un peu couvert de nos péchés, couvert de nos faiblesses, couvert de nos désespoirs. Et puis un frère dit, maman, moi je t'aime. Je vois Jésus dans tes yeux. Puis tout d'un coup, il dit, ouais, moi, je fais un gâteau maintenant. On se sent mieux. On a besoin les uns des autres. Donc voilà, c'est mon exhortation de se rappeler en fin de compte qu'il y a une bataille spirituelle qui n'est pas contre les uns les autres, contre les hommes, mais c'est une bataille spirituelle. Et le fait qu'on n'est souvent même pas au courant, parce que moi, si on m'avait demandé il y a 20 ans, tiens, David, t'es esclave de la mort, je n'en ai pas du tout, je suis chrétien, je vais au ciel pour toujours, pas du tout. Le fait même d'être si naïf, c'est l'efficacité des forces spirituelles. On est déjà convaincu, ah, t'es pas esclave de la mort, toi, allez bien. Mais on est tellement dans cet engrenage. Donc, se rappeler de cette vérité, et de suivre l'exemple de Jésus et de sourire, de montrer la miséricorde, de se mettre à genoux en prière, toujours revenir au Père, de se donner à cette communion fraternelle parce qu'on a besoin les uns des autres pour rester fidèles. Allez, amen.
Amen.